on n'a pas le contrôle de tout dans la vie. J'aimerais bien ça, mais on l'a pas, ce contrôle-là. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est des parents heureux.
Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ, qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant. À quel point le balado santé sans rendez-vous nous permet d'aller dans plusieurs sphères de la santé, plusieurs sujets. Et aujourd'hui, je sens que c'est un sujet qui va vous plaire particulièrement. On va parler du développement de vos tout-petits ou du développement des tout-petits en général. Merci beaucoup d'être à l'écoute. D'ailleurs, là, on en est à plusieurs épisodes jusqu'à maintenant. C'est vraiment un plaisir de vous savoir autant au rendez-vous. Alors, avec moi aujourd'hui, j'ai Dr Joséanne Gagnon, qui est pédiatre en centre hospitalier, professeure agrégée au département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Elle est maman également. Joséanne, bonjour.
Bonjour.
Et également, Raphaël Morin-Gagnon, résident en quatrième année de pédiatrie et papa de deux enfants en bas âge. Enchanté, Raphaël.
Bonjour, enchanté.
D'abord, ça, c'est la première question qu'on pose à tous nos intervenants du balado. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la pédiatrie comme, comme champ de spécialisation dans votre médecine?
Eh bien, moi, je suis rentrée en médecine pour aller en pédiatrie, en fait, parce que dans ma famille, l'éducation, les tout-petits, ma mère était enseignante, mes grands-mères aussi. Du côté de mon papa, il y avait beaucoup, beaucoup d'importance rattachée aux enfants. Donc, c'est comme une tradition familiale d'aimer les enfants.
Et Raphaël?
Au contraire de Dr Gagnon, moi, c'était pas planifié. Durant mon parcours, ce que j'ai aimé de la pédiatrie, c'est que c'est vivant. Les enfants, ça va vite, ça va bien vite, ça va mal vite. Puis je trouve que le travail qu'on fait auprès d'eux, il est vraiment gratifiant. On a une possibilité de changer leur futur. Donc, c'est ça qui m'intéresse dans la pédiatrie.
Est-ce que votre voix qui est douce, qui est posée, qui est apaisante, vous l'avez travaillée avec le temps ou vous avez toujours eu ce... On dirait qu'on a tendance à vous écouter à parler plus bas. Je trouve ça.
Non, c'est pas, j'ai pas travaillé dans mon cas.
Je trouve ça particulier. Je comprends parce que votre clientèle n'a pas besoin ou n'a pas intérêt à se faire parler fort, tu sais, de façon très intense. Mais je trouve la question pertinente en ce sens. Est-ce que votre voix a changé avec le temps ou avec votre expérience professionnelle?
Ben moi, à mon âge, c'est sûr que je pense que je me suis adoucie un petit peu. Mais je pense aussi que de travailler avec les enfants, ça demande de la douceur et puis d'être attentif aussi. Alors moi, quand je pense que quand on a l'air posé, ben les parents peut-être qu'ils se sentent plus à l'aise parce qu'on est là aussi pour les rassurer beaucoup.
Ouais.
Là, on doit avoir un rôle de les mettre, en confiance.
Est-ce que votre expérience professionnelle a fait en sorte que, en tant que parent, vous avez su quoi faire davantage? Ou, au contraire, vous aviez tellement de bagages informatifs que ça vous a peut-être pas nuit ou encore du moins donné trop d'informations sur le développement de vos tout-petits? J'aimerais ça vous entendre là-dessus.
Bien, peut-être moi, ça m'a rassuré. Je pense qu'au quotidien, ça m'a rassuré parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans le développement de mes enfants que j'ai pu me dire, ma fille est peut-être en retard dans ce point particulier-là, mais dans l'ensemble, ça va super bien, elle se développe bien, elle est en bonne santé. Je pense qu'il y a un autre volet, par contre, c'est sûr que des fois, quand on est exposé, surtout en tant que résident en pédiatrie, quand on est exposé à des choses plus catastrophiques, des maladies plus rares ou plus graves, mais on garde toujours en tête qu'il y a une possibilité de... même pour nos enfants, que ces maladies-là surviennent. Donc, c'est ça. À double tranchant, mais au quotidien, ça me rassure, je dirais.
OK. Et vous, Joséanne?
Bien, moi, je pense qu'initialement, bien, notre formation est beaucoup axée sur les enfants malades, les enfants très malades. Fait qu'au début, peut-être que j'avais plus de crainte qu'un parent qui n'a pas ces connaissances-là. Mais en même temps, je pense qu'au fil du temps, bien, on est content quand nos enfants sont en santé. On l'apprécie beaucoup. Mais effectivement, peut-être qu'on a tendance à être
plus attentif aux problèmes au début, mais ça se place.
Au moment où on enregistre le balado, moi, je suis à 36 semaines de grossesse. Donc, mon conjoint et moi, on va devenir des parents dans quelques semaines. Et évidemment, tu sais, il y a plein de questions qu'on se pose. On a beaucoup d'appréhension, d'excitation aussi. Puis, je pense qu'à travers tout le processus de la grossesse, qu'on s'est fait dire le plus souvent, c'est « je vais te donner un conseil, OK? » Écoute pas les conseils des autres. Je veux vous entendre là-dessus, étant donné que vous êtes vraiment spécialisée en développement des jeunes enfants.
Bien, en tant que parent, moi, ce que je dirais, c'est écouter les conseils des gens auxquels vous faites confiance, oui. Des professionnels de la santé, puis choisissez bien, les conseils des personnes pour lesquelles vous avez le plus d'estime, le plus de confiance. Puis la deuxième partie de la réponse, ce serait peut-être, mais même si on vous donne tous les conseils du monde, il y a une bonne partie de l'apprentissage qui va se faire avec l'expérience, parce que devenir parent, c'est pas uniquement écouter les conseils, mais c'est le vivre aussi. Donc, on a bien beau se préparer comme on veut, mais il y a une bonne partie qui va rester de l'inconnu jusqu'à ce qu'on y fasse face, finalement. Mm-hmm.
Puis je rajouterais peut-être à ça de vraiment faire attention quand on consulte Internet, de vraiment aller voir des sites fiables, oui. Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis, il y a beaucoup d'opinions personnelles. Puis je pense d'aller avec des sites fiables. Puis c'est pour ça peut-être qu'on va en parler plus en fin d'entrevue. Oui. Mais c'est d'où l'idée que jaillit là, de créer un outil pour les parents, un outil qui permet d'aller en ligne et puis de pouvoir consulter rapidement sur des questions précises sans qu'on y passe des heures et des heures. Mais ça, on y reviendra. Fait que dans le fond, pour répondre à ta question, justement, qui est une excellente question, c'est comme ça qu'on a pensé un petit peu l'outil.
Si on fait référence au bulletin pédiatrique offert par la Faculté de médecine de l'Université Laval, oui, on va y revenir un petit peu plus tard. Puis pour y avoir jeté un coup d'œil rapide, je les ai tous téléchargés en passant. C'est sûr que je vais m'y mettre et je vais faire la lecture plus approfondie au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, évidemment. Là, mais c'est vraiment, vraiment très, très, très bien fait. Alors, bravo d'entrée de jeu pour cette initiative-là. On va entrer dans le vif du sujet. Un pédiatre. Bon, qu'est-ce que c'est un pédiatre? Est-ce que tous les enfants auraient intérêt à être suivis par un pédiatre ou le médecin de famille peut faire très bien le travail? Est-ce que le pédiatre, on le consulte pour des besoins plus spécifiques? Je vous pose la question.
Bien, d'entrée de jeu, un pédiatre, c'est un spécialiste des enfants et des adolescents, donc de 0 à 18 ans. C'est notre clientèle unique versus le médecin de famille qui va voir des patients de tout âge. La différence aussi est plus marquée parce que le pédiatre s'occupe pour la plupart du temps des hospitalisations des enfants, va faire la pouponnière aussi, donc va s'occuper des bébés naissants, puis va faire du suivi en cabinet d'enfants. Donc, on est vraiment spécialiste des enfants. Et pour la deuxième portion de la question, on n'a pas nécessairement besoin, tous les enfants québécois n'ont pas besoin d'un pédiatre. C'est plus les enfants qui ont un problème de santé spécifique mm-hmm. qui vont avoir besoin d'un suivi en pédiatrie. Sinon, les médecins de famille font un excellent travail pour le suivi des nouveau-nés et des enfants. Puis peut-être que j'ajouterais que, par contre, c'est sûr que s'il y a un enfant qui se retrouve sans médecin de famille, sans suivi, on va le suivre, bien évidemment, même s'il est en parfaite santé.
Fait qu'on travaille en complémentarité, on est en interdisciplinarité, puis il arrive aussi qu'on suive des enfants sans besoin particulier quand la fratrie présente des besoins particuliers. Oui. Fait qu'on essaie vraiment de respecter les parents pour pas qu'il y ait finalement à multiplier les rendez-vous un petit peu partout. Fait qu'on est quand même attentif aussi, comme dit si bien Raphaël, quand des enfants n'ont pas de médecin de famille. Puis on travaille aussi en interdisciplinarité avec les infirmières, les praticiennes spécialisées qui suivent aussi beaucoup d'enfants pour venir en aide aux médecins de famille.
Et justement, les besoins spécifiques en santé pour un enfant, c'est quoi les principales raisons pour lesquelles un enfant va être transféré, par exemple, d'un médecin de famille à un pédiatre? Les principales causes?
Je pense que je diviserais ça en deux volets, peut-être. Il y a la prise en charge en cabinet. Si je donne un exemple, si votre enfant a, que ce soit une malformation au niveau de ses voies urinaires, fait des infections urinaires à répétition, il va peut-être avoir besoin d'un suivi en pédiatrie. Les enfants qui ont un syndrome, on peut penser à la trisomie 21, vont avoir besoin d'un suivi en pédiatrie. Donc, ces enfants-là, plutôt, vont avoir besoin d'un suivi spécifique puis vont être transférés la plupart du temps d'un médecin de famille à un pédiatre. en cabinet. Puis la deuxième raison, bien, le volet plus qu'on voit à l'urgence, les raisons les plus courantes qu'on voit des enfants, là, c'est beaucoup les infections, la fièvre, les infections respiratoires qui sont vraiment courantes chez les enfants. Donc ça, c'est les raisons principales pourquoi nous, on voit les enfants en tant que pédiatres principalement.
Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour s'assurer d'une santé optimale pour nos enfants? Là, je sais que la question est large, puis que, tu sais, je veux dire, il y a probablement plein de choses qu'on peut faire, mais à la base, là, en tant que spécialiste des enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nous, en tant que parents ou futurs parents, d'adopter comme habitude pour éviter peut-être des problèmes de santé lors du développement de nos enfants?
Bien, premièrement, les problèmes de santé des enfants sont, dans la grande, grande majorité des cas, jamais ou très, très exceptionnellement, la faute des parents.
Non, c'est ça.
Alors, il faut vraiment déculpabiliser les parents, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais dire que on n'a pas le contrôle de tout dans la vie. J'aimerais bien ça, mais on l'a pas, ce contrôle-là. Et je pense que mon meilleur conseil pour des parents, pour en suivre quotidiennement, puis Raphaël, tu compléteras, là, mais je pense que la chose la plus importante, c'est des parents heureux, des parents disponibles pour leurs enfants, des parents qui savent accorder l'importance que l'enfant a besoin de se sentir important, puis le centre de l'attention, pas toute la journée naturellement, mais certaines heures dans la journée. Donc, des parents disponibles, heureux, des parents équilibrés aussi, qui ont à cœur plein de belles et bonnes choses, comme une alimentation la plus équilibrée possible, mais en même temps, il ne faut pas culpabiliser les parents qui n'ont pas les possibilités que chaque repas soit parfait à tous les jours. Donc, je pense que c'est de donner le meilleur de soi-même, puis d'avoir des routines.
Des routines, super important. Je dirais aussi que c'est important que les parents travaillent le plus possible en équipe. Qui rament dans le même sens, parce que ça, l'enfant sent les dissensions à l'intérieur d'un couple, d'une famille. Donc, c'est important que les parents, quand c'est possible, soient dans la même équipe. Peut-être que je finirais juste par la petite chose de plus qui peut être au niveau de la prévention pour les parents puis pour les enfants, bien, la vaccination. C'est quand même quelque chose de super important qui, dans notre quotidien, nous, dont on voit les effets, les enfants pas vaccinés sont plus à risque de développer plein de maladies qui peuvent être des maladies qu'on peut prévenir facilement, qui peuvent être jusqu'à mortelles. Donc, ça serait peut-être la petite chose au niveau de la prévention pour une santé optimale des enfants que je conseille à tous les parents.
Oui, puis si on veut faire un petit peu du pouce là-dessus, c'est de les habituer rapidement à l'activité physique, à ne pas être toujours devant les écrans, à une passivité finalement, parce que veut, veut pas, on devient vite dépendant ou accro de ça. Donc, d'être des modèles finalement, d'être des modèles, pas d'être parfait, mais d'être des modèles, donc de se tenir en forme, de prendre soin de soi, de pas être à l'excès, mais de rester dans l'équilibre, puis de dormir aussi.
Oui.
Le plus possible.
De dormir, puis d'avoir des routines qui favorisent un bon sommeil de l'enfant. Fait que c'est la base, quoi. Je sais pas si ça répond un petit peu à la question, mais je pense que c'est rien de compliqué, mais l'essentiel.
Oui, et ça répond amplement à ma question, même que ça m'a allumé sur plusieurs petits points spécifiques. De un, des parents heureux, des parents qui sont bien. Est-ce que ça... une question qui se divise en deux sous-questions, là. Jusqu'à quel point la santé mentale des parents va avoir un impact sur le développement de ses enfants? Et est-ce que ça vous arrive d'intervenir auprès des parents au lieu d'intervenir auprès des enfants, souvent parce que vous pouvez voir que le problème est peut-être issu justement de parents qui ne sont pas sur la même longueur d'onde ou qui ne rament pas dans le même sens, comme le disait Raphaël? Est-ce que ça vous arrive, ça, de faire ce genre d'intervention-là, ou ce n'est pas nécessairement dans votre champ de spécialisation?
Bien, c'est toujours délicat, très, très délicat. Alors, il faut se donner la chance, parce qu'on n'a pas toujours l'heure juste. C'est pas parce qu'on est médecin qu'à première rencontre, on est capable de tout de suite tout placer les enjeux. Si on pense qu'il peut y avoir un enjeu de santé mentale, parentale, on va approcher ça très progressivement. C'est sûr que si c'est dans un contexte d'urgence, qui est arrivé des choses vraiment qui sont dangereuses pour la sécurité de l'enfant, bien là, bien sûr, on ne mettra pas ça à plus tard, on ne se donnera pas plusieurs rencontres. On va vraiment essayer d'avoir des équipes autour de nous pour justement voir une évaluation de la famille. Puis aussi, j'aimerais ça revenir sur, j'ai dit parents heureux, là, mais naturellement, je suis encore une mère, je suis pas heureuse à tous les jours à 100%, là, juste pour baisser les attentes. Je pense qu'il faut que les enfants aussi vivent la réalité. Mm-hmm. Hein, puis je pense que c'est ça, faut pas que ça soit non plus toujours un environnement
on ne cherche pas la perfection, c'est impossible.
Non. Voilà. C'est ça, merci d'avoir complété ma phrase.
Et puis, un autre élément aussi que je pense que c'est Raphaël qui a mentionné, la routine. Jusqu'à quel point la routine, elle est importante dans la jeune vie d'un enfant?
Bien, comme père actuellement, ça fait vraiment la différence, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour les habitudes de vie, comme le soir, notre routine à nous, c'est de donner le bain à notre fille, par la suite la lecture, par la suite le sommeil. Quand on reproduit ça, c'est des constantes pour elle, c'est des repères qui font en sorte qu'elle se sent en sécurité, puis qu'elle est capable de bien dormir, puis je pense mieux se développer par la suite, là. Donc, c'est super important, la routine chez un enfant, parce que ça lui amène des points de repère, ça lui permet d'être sécure, puis de bien se développer à l'intérieur de cette sécurité-là. Puis ça commence très tôt, tu sais, mon fils a 4 mois actuellement, puis la routine de sommeil, c'est un élément clé pour qu'il y ait des nuits qui soient le plus reposante pour lui et pour nous aussi, là. Donc je dirais que c'est très important d'établir ça, là, de façon précoce avec nos enfants.
Si on reste dans l'optique d'un enfant qui est en très, très bas âge, un nouveau-né, là, et puis qu'on s'en va vers l'alimentation, ça aussi, c'est un sujet que vous avez abordé dans les dernières minutes. Il y a beaucoup de mamans qui se mettent beaucoup de pression pour l'allaitement et tout ça. Oui, il y a beaucoup de bonnes vertus à l'allaitement. Jusqu'à quel point, tu sais, ça ne peut pas nous rendre malades, entre guillemets, de se mettre cette pression-là pour allaiter? Versus la nutrition et le côté nutritionnel là, de l'alimentation de qualité. Là.
C'est sûr qu'un allaitement qui fonctionne bien, c'est l'idéal. Oui. Toutes les mamans rêvent de ça. Puis c'est vraiment, effectivement, le meilleur aliment. Cependant, il reste que pour des conditions parfois qu'on dit exceptionnelles, mais parfois aussi plus fréquente qu'on le pense, soit parce que maman était déjà très, très fatiguée au moment de l'accouchement. La montée laiteuse ne se fera pas idéalement comme elle l'aurait souhaité ou d'autres raisons, une maladie grave chez une maman, que maman n'arrive pas à réaliser ce rêve-là d'allaitement. Bien, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser ces mamans-là. C'est pas toutes les mamans qui ont les conditions idéales d'allaitement. Il faut dire aussi que l'allaitement, c'est très important, mais ce qui est probablement tout aussi important, c'est que notre maman soit vraiment heureuse, en santé, puis disponible pour les besoins affectifs de l'enfant. Si on a une maman qui est brûlée, qui est au bout de la corde parce que, bon, son allaitement ne fonctionne vraiment pas, qu'elle a tout essayé, qu'elle a toute l'équipe autour d'elle, la conseillère en allaitement, etc., et que ça ne fonctionne toujours pas, bien, il ne faut pas que ça devienne, un objectif allaiter pour allaiter au détriment, finalement, de la prise de poids de bébé, au détriment aussi de la propre santé mentale de maman, parce que Raphaël pourra peut-être me compléter là-dessus, mais c'est tellement important, dès la petite enfance, l'attachement de l'enfant avec sa maman. Donc, ça, on parle beaucoup de la maman, là. C'est vrai qu'on en porte l'eau sur nos épaules, nous, les mamans, là, mais le papa aussi, là, bien sûr, je ne veux pas l'exclure du tout, mais c'est important, ce lien-là avec la mère. Alors, si la mère, je ne sais pas, est trop épuisée, ben c'est pas l'idéal de brûler les mamans. Et puis, beaucoup de gens ici, là, on se regarde ce matin ou ce soir, je ne sais plus tout. Mais on n'a pas tous été allaités, puis on a fait des gens bien. Puis, je pense qu'il faut faire, comme je disais en introduction tantôt, fait notre possible, là, puis c'est déjà beaucoup. Puis l'ingrédient le plus important, c'est l'affection qu'on va donner à cet enfant-là. Puis, alors, c'est ça, moi, je travaille beaucoup à déculpabiliser les mamans. Je pense que dans la vie, là, la modération a bien meilleur goût si on est trop... puis loin de moi, l'idée de ne pas dire que l'allaitement, c'est pas l'idéal quand c'est possible. Mm-hmm. C'est l'idéal, mais quand c'est possible. Des fois aussi, si on enlève la pression sur les mamans, ben, on enlève du stress, ben des fois, curieusement, ça se met à mieux aller. Hein, parce qu'on sait que, bon, trop de stress, c'est pas bon pour la production laiteuse. Donc, c'est pour ça que... Je pense que quand on y va avec un... En fait, c'est un mot qui est à la mode, là, mais je vais le répéter ici, là, un peu de gros bon sens puis de bienveillance aussi face à cette mère-là, face à cet enfant-là. Je pense que ça crée un climat qui est plus smooth, mm-hmm. puis ça va souvent beaucoup mieux.
On va rester dans l'alimentation pour se diriger vers peut-être un autre aspect du développement des enfants en jeune ou en plus vieux âge. Là. Dans l'intégration des aliments, là, maintenant, il y a la fameuse DME. Là. Est-ce qu'il y a des tendances... je ne sais pas si c'est un terme qui est délicat à être utilisé, là, parce que la DME, il y a quelques années, n'existait pas. J'ai une amie qui a un garçon de 5 ans, puis la DME, dans ce temps-là, n'existait pas du tout. Et là, je lui parle de ça, et elle me dit, « Mon Dieu Seigneur, moi, je ne connaissais pas ça, il y a 5 ans. » Est-ce que ce sont des tendances, ces nouvelles approches-là, ou encore c'est bon, oui, ça a été étudié, ça a été prouvé scientifiquement que c'est bien de faire ça, et jusqu'à quel point un parent devrait faire ça ou encore se fier à son propre instinct pour intégrer ou pas des façons de le développer finalement?
Bien, je pense que la DME, c'est une bonne chose. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des avantages à utiliser la DME pour certains enfants, mais il faut toujours que ce soit sécuritaire. Il faut que cet enfant-là soit rendu au stade d'être capable de d'avaler les aliments et non pas de s'étouffer mm-hmm. avec les aliments. Donc, cet aspect-là, un aspect de sécurité. Il faut y aller aussi progressivement, je pense, en offrant les aliments qui sont non à risque d'étouffement. Il faut y aller aussi, moi, je pense, avec un petit peu de pondération là-dedans, là, de se dire, ben si je fais la DME, puis que je suis très, très stricte, puis que je ne fais que la DME, et que mon enfant, ben en vient à presque rien manger, alors que c'est important, plus on vieillit dans la vie d'un enfant après 6 mois, c'est important de consommer des solides, que ce soit sous la forme de céréales de bébé. Donc, si mon enfant, je veux lui donner des aliments qu'il prend à la main, parce que c'est ça, mm-hmm. la DME, c'est prendre des aliments, l'enfant prend lui-même les aliments, puis prend la quantité qu'il souhaite, bien, si mon enfant en compensation boit tellement de lait qu'on s'ensuit un problème d'anémie, bien, ça, c'est pas un idéal. Donc, je pense que la modération, c'est encore une bonne recette parce qu'on voit des fois des parents qui vont compenser le peu d'intérêt de leur enfant à consommer lui-même les aliments par trop de lait. Puis là, on entraîne un problème là, qui s'appelle l'anémie. Puis ça, c'est pas souhaitable. C'est pas que je veux faire peur aux gens qui optent pour la DME. Je veux juste dire qu'il faut quand même, des fois, avoir ça en tête de porter attention. Mais je pense que la DME appliquée un petit peu en complément, de se dire, ben là, il n'a pas pris ce qu'il aurait dû prendre, puis bon, il est rendu qu'il prend beaucoup trop de lait, ben, un parent peut dire, ben là, peut-être que je vais lui donner un petit peu de céréales de bébé là, pour un petit peu compenser. En fait, c'est mon avis, mais nous, c'est un peu notre pensée, là, au CME, là, au Centre Mère-Enfant. C'est pas mal comme ça qu'on comprend la DME.
Puis dans le côté des culpabilisations, pour un enfant qui, bon, est en âge de manger régulièrement, mais qui qui ne développe pas ses goûts. Il ne mange pas, il n'a pas le goût de manger ça ou ça. La seule chose qu'il veut manger, c'est tel aliment qui n'est peut-être pas nécessairement ultra bon pour la santé. Mm. Mais là, le parent se sent tellement coupable. Mais pourtant, j'essaie de lui faire goûter plein de choses, puis il ne développe pas ses goûts. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je n'ai pas l'impression de lui donner tout ce qu'il faut en termes de nutriments, mais je ne peux pas non plus le forcer à manger non plus.
Il y a des phases qui sont normales. Ouais. À un certain moment, surtout vers l'âge de 2 ans, les enfants vont vouloir s'affirmer, vont dire non à beaucoup d'aliments. Si je prends l'exemple de ma fille, à un certain moment, qu'elle mangeait presque uniquement des pains pita avec du beurre d'arachide, de l'humus. Donc, c'était assez limité, mais c'est de continuer en tant que parent à y offrir une variété d'aliments pour qu'elle aille chercher l'ensemble des choses possibles. Donc, on va, en tant que parent, tout le monde va faire face à ces phases-là qui sont plus difficiles, mais c'est sûr qu'il y a d'autres enfants qui sont des plus petits mangeurs qui vont avoir une restriction alimentaire plus sévère. Je pense que c'est ça. En tant que parent, c'est de donner une diversité puis de faire en sorte que le repas aussi, ce soit un milieu qui est agréable pour toute la famille. Fait qu'il y a un milieu qui est à table avec tout le monde qui mange en même temps, qu'il n'y a pas de distraction, puis c'est vraiment un rassemblement. Puis habituellement, quand on met ces étapes-là ensemble, bien, les petites phases de difficulté finissent par se tasser dans le temps-là.
Puis il faut que, je renchérirais là-dessus, là, il faut que le moment du repas demeure un moment plaisant, agréable. Si l'enfant sent les tensions, parce que puis ça m'est arrivé comme mère, là, d'appréhender le repas, parce que de se dire, ben il va manger tout sauf son brocoli, puis ce que je trouve qui est bon pour lui, ben ça se peut qu'il sente un peu notre stress, puis qu'il se braque un petit peu plus, là, si je peux utiliser ce mot-là. Fait que, comme dit Raphaël, c'est d'offrir même plusieurs fois un aliment avant, parce que rarement les enfants vont aimer d'emblée là, un aliment tout de suite, là, sauf quelques-uns. Là, on a des idées en tête, tout le monde, mais à part certains aliments qui sont peut-être plus salés.
À part les sucreries les aliments salés, en effet.
Ils seront pas emballés la première fois, puis il faut pas se décourager, puis il faut surtout éviter de compenser trop avec le lait, parce que des fois, les parents, ben souvent, on voit ça, nous, beaucoup, là, au bureau, les enfants, ben parce qu'ils mangent pas beaucoup, ben les parents disent, ben je vais lui donner plus de lait, mais c'est pas la chose à faire. Ça, c'est aussi un bon truc, parce qu'ils ont pas des si gros estomacs. Fait que soit ils remplissent de lait, soit ils prennent de la nourriture. Mais il faut surtout pas se décourager comme parent, puis il faut pas se dire, ben c'est parce que je l'ai pas, non, puis il faut rester vraiment très, très relax par rapport à ça. Puis un autre conseil qu'on va donner souvent, c'est de faire de ce moment-là un moment privilégié, de fermer les écrans, de ne pas vouloir non plus toujours l'amuser avec une tablette, là, parce que c'est pas un idéal là, pour le faire manger. C'est vraiment de nous avoir du plaisir. Et puis souvent, en garderie, ils vont manger beaucoup mieux qu'à la maison,
en effet.
Fait que quand les parents me disent « Ben, la garderie, ça va super bien, il essaie toutes sortes de choses, le tofu à gardienne est donc meilleur que mon tofu à moi. » Mais en fait, c'est l'effet d'entraînement avec les amis. Puis ça, c'est vraiment rassurant.
Parlons-en de ces écrans, de ces tablettes, de ces médias sociaux. Bien là, pour les enfants, c'est davantage les appareils des parents avec lesquels on va jouer. Ils sont lumineux, sont intéressants. Pour les parents, c'est les médias sociaux et la pression qui vient avec. Je veux vous entendre là-dessus, les pour, les contre.
Bien, tout d'abord, c'est d'essayer de minimiser les écrans. En bas de 2 ans, pas d'écran. Puis par la suite, on essaie d'avoir moins d'une heure puis du contenu qui est interactif, du contenu qu'on écoute en famille, des émissions que les parents choisissent, qui sont appropriées pour l'âge. Donc, vraiment, c'est de cibler là, puis essayer de limiter. C'est sûr que de nos jours, je pense que c'est impossible de faire en sorte que son enfant ne soit pas exposé à aucun contenu numérique. Mais c'est ça, c'est de choisir. Choisir autant dans le moment qu'on partage avec les enfants devant les écrans que le contenu qu'on va partager avec eux.
Oui, puis je rajouterais aussi que les enfants, dans le fond, ils imitent les parents. Alors, un parent a de la misère à contrôler son temps, par exemple, de cellulaire, puis je peux me prendre en exemple, ben c'est sûr que s'il nous voit tout le temps sur le cellulaire parce que à tout bout de champ, on reçoit des textos des collègues et tout ça, ben ils comprennent que ben ça, c'est comme...
une autre partie de notre corps, finalement, et que c'est, ça nous est indispensable. Donc, on est des modèles. Donc, il faut se rappeler que si on est toujours avec les yeux rivés là-dessus, bien, c'est sûr que l'enfant, par la suite, ça va être ça, son modèle. Mm-hmm. La Société canadienne de pédiatrie, la Société américaine de pédiatrie, vraiment, à partir de tout ce qui a été démontré, parce que, bon, c'est sûr qu'on voit les problèmes de par exemple, de l'utilisation des cellulaires, bien, on les a pas vus tout de suite, les conséquences négatives de l'utilisation de trop de temps d'écran. C'est par la suite que les gens commencent à rassembler ce que nous, on appelle en langage médical l'évidence. Donc, ça, c'est des gens qui ramassent des statistiques et puis qui suivent des cohortes, là, des groupes d'enfants d'enfants plus vieux qui deviennent des étudiants. Ben là, on a vu des liens avec le temps passé à l'écran, puis la survenue d'obésité, la survenue aussi des fois, ben c'est sûr, quand tu fais, c'est très tentant, là, c'est très agréable, puis on devient un peu tous plus ou moins dépendants de ça. Ben le temps que tu consacres à ça, ben tu le consacres pas à autre chose, à ton développement, à tes relations, tout ça. Donc, c'est comme la société canadienne, la société américaine nous suggère donc, comme disait Raphaël, pas du tout avant 2 ans. Puis après ça, ben idéalement, moins d'une heure. C'est sûr qu'on calcule pas là-dedans le temps qui doit être consacré aux travaux scolaires. Ça, c'est pas calculé là-dedans, mais c'est tous les écrans. Donc, c'est la tablette, c'est le téléphone cellulaire, puis c'est la TV aussi, inclus. Mais voilà. Puis, ben moi, mes enfants sont grands. Fait que je le vois maintenant. Que oui. Ce qu'on sait maintenant, ben on le savait pas quand moi j'ai élevé mes enfants. Donc, peut-être qu'il y a des petites choses que j'aurais dit différemment. C'est pas, je veux pas que répandre la rumeur que mes enfants sont toujours accrochés sur leur écran. Mais
ce sont des adultes de leur génération, et sûrement. Voilà.
Fait que des fois, je me dis, bon, ben peut-être que lors des rencontres familiales, si on pouvait laisser ça tout le monde dans la petite boîte à l'entrée, ça pourrait être bien aussi. Mm-hmm. Mais je pense que c'est... Je suis une des pires qui a dû apprendre à me contrôler. Mais en même temps, pour ne pas culpabiliser tout le monde ou avoir l'air de nous rendre tous comme des vilains, il faut dire aussi que le travail a créé ça aussi, hein, de nous rendre disponibles. Puis donc, c'est un peu pour ça aussi, hein, qu'on est accrochés là-dessus, juste pour nous enlever un petit peu... chacun d'entre nous de la culpabilité.
Il y a un élément aussi que vous avez mentionné tout à l'heure quand vous avez dit « la vie, c'est pas parfait, puis il faut que l'enfant le comprenne ». En tant que parent, probablement, puis Geneviève qui est à côté de nous le vit en ce moment, pourrait confirmer, puis je sais que probablement j'aurais peut-être cette tendance-là de vouloir toujours dire à mon enfant que c'est le plus beau, c'est le plus fin, c'est, tu sais, qu'il n'a jamais fait d'erreur dans sa vie et tout ça, tu sais. Est-ce que c'est important de dire à son enfant que c'est pas parfait tout le temps, qu'il va faire des erreurs, puis que ça fait partie de la vie, puis qu'il y a rien de parfait dans la vie, puis à quel âge on intègre ça, cette espèce de... Tu sais, sans dire c'est un échec, tu sais, je veux dire, on se comprend là dans la formulation, mais de lui faire comprendre que ça peut pas toujours être réussi dans la vie, puis qu'il sera pas toujours le plus beau, puis qu'il sera pas toujours le plus fin.
Mais moi, je suis pas... pédopsychiatre, là. D'abord, j'aimerais juste dire que je ne possède pas cette question-là parfaitement. Mais ce que je dirais, c'est que le tout petit enfant, premièrement, même si on lui dit qu'il va faire des erreurs, il ne comprendra pas ça. Il n'est pas rendu à l'âge du raisonnement. Je pense que c'est important de dire à son enfant qu'il est beau, qu'il est capable, puis qu'on l'aime beaucoup. Je pense que, cependant, quand il vient dans un âge plus vieux, comme en âge de comprendre, sans doute plus, 6 ans, 5 ans même déjà, c'est peut-être de lui faire comprendre que effectivement, même si c'est pas parfait, sans nécessairement souligner que son dessin est peut-être pas le plus beau, il faut surtout pas faire ça, là, mais... quand il manifeste peut-être qu'il n'est pas satisfait, ben de lui dire que c'est normal, que nous aussi, on ne rend pas toujours des travaux parfaits, mais que on est content, on est fier de lui parce que même si c'est pas aussi parfait que qu'il aurait aimé, ben il l'a fait, puis il a fait son mieux. Alors, ce qu'il faut apprendre à un enfant, je pense, c'est de faire de son mieux. Puis aussi, c'est sûr que, Raphaël, tu me compléteras, là, mais si il sera jamais tout seul au monde, il sera jamais au centre de l'univers tout le temps, fait que c'est important aussi de mettre ça en perspective. Puis ça, ben la fratrie, quand il y a une fratrie qui s'installe,
ça aide vraiment beaucoup.
Ça remet les choses en perspective.
C'est définitivement, parce qu'un enfant unique, ben c'est sûr que ça demeure le centre de l'attention de la famille, des parents, tant qu'il n'y en a pas un autre ou qu'il n'y a pas une autre personne qui s'ajoute à la famille. Donc, deux enfants dans une famille, ça permet déjà de faire en sorte que l'enfant roi, qui est un peu sur le piédestal, ben ça soit moins présent. Puis, ben je pense que, comme Dr Gagnon a dit, c'est super important de féliciter nos enfants, mais aussi de leur dire quand ils ont fait des moins bonnes actions ou quand c'est le résultat de leur effort n'est pas parfait. Fait que c'est d'être chaleureux quand il le faut, mais d'être strict et rigoureux quand il faut aussi. Je pense qu'il faut que l'enfant se rende compte que les félicitations, il va les recevoir quand il a fait quelque chose de bien. Puis qu'il fasse la distinction justement entre les choses qui réussit puis les choses où des fois il réussit moins bien ou...
Puis je dirais aussi quand il n'y a pas de fratrie, parce qu'il n'y a pas toujours de fratrie, la garderie, la CPE,
ça, aide beaucoup,
ça va aider beaucoup aussi à mettre cet enfant-là au milieu des autres enfants, puis de trouver sa place. Puis les enfants sont intelligents, là, ils comprennent très bien qu'ils ne peuvent pas, si ça leur est expliqué, toujours occuper la première place, que c'est chacun son tour.
En tant que future mère, avec mon chum, futur père aussi, là, j'entends des discours de plusieurs écoles de pensée par rapport à la manipulation. Tu sais, c'est à partir de quel âge qu'un enfant peut comprendre cette espèce de concept-là de si je pleure ou si je crie, je vais avoir ce que je veux. T'sais, est-ce qu'un enfant très, très jeune, un nouveau-né, c'est ce qu'on me dit des fois, là, tu vas voir, dans sa première année de vie, là, l'enfant, il pleure, mais c'est pas pour quémander quelque chose, c'est pas pour essayer de manipuler ses parents, c'est juste qu'il veut se faire rassurer. Mais rendu à un certain âge, il peut comprendre à un moment donné que si on est toujours là à chaque fois qu'il pleure puis à chaque fois qu'il crie, il va pouvoir utiliser cette façon-là pour avoir ce qu'il veut. Y a-tu un âge précis où, tu sais... Jusqu'à quel point on doit se dire, bon, ben là, il est en train de me manipuler, puis là, ben non, clairement, il est bien trop jeune pour avoir saisi ce concept-là.
Ou d'avoir saisi son pouvoir, parce que s'ils ont un pouvoir sur nous, c'est clair. Le jeune nourrisson, c'est clair que le nouveau-né manipule jamais. Puis il faut répondre à ses besoins, puis ça le sécurise qu'on réponde rapidement à ses besoins. Donc, ça serait difficile de dire qu'un enfant manipule volontairement dans la petite enfance.
Ce serait jusqu'à quel âge, maintenant?
Est-ce qu'il y a un âge tranché au couteau?
Non,
probablement pas, mais je dirais que sûrement pas avant un an. C'est sûr qu'on a des fois, par exemple, des enfants autour d'un an, des fois quelques semaines avant, il y en a des plus précoces, là, qui vont, par exemple, s'apercevoir que lorsqu'ils font des crises, lorsqu'ils sont contrariés, bien, rapidement, bien, maman va donner l'objet qui avait été retiré. Bien, à ce moment-là, le parent va s'en apercevoir. Mais c'est sûr que c'est rarement là, avant un an. Là.
OK.
C'est pas mal, ça, je pense.
Oui, tout à fait. Puis moi, je dirais juste que peut-être des fois, quand on arrive plus vers la fin de la première année de vie, il faut peut-être commencer justement à ce que l'enfant soit capable, ou ait la conscience qu'il est capable de se rassurer par lui-même. Tu sais, quand on a un pleur léger, pas un pleur intense, mais quand on a un pleur léger ou que l'enfant a une petite plainte, mais qu'il n'a pas l'air en détresse, mais peut-être que là, ça commence à être le temps de faire la transition, donc de laisser essayer de se rassurer par lui-même. Parce que ça, c'est important pour son développement futur, d'avoir cette capacité-là, que ce soit dans la vie quotidienne ou même durant le sommeil, d'être capable de se rassurer lui-même pour se rendormir par lui-même. Mm-hmm. Donc, vers la fin de la première année, c'est un apprentissage important pour les enfants. Puis en tant que parent, je pense que c'est difficile de laisser aller ce qu'on avait implanté, qui était souvent un système où on venait le réconforter à chaque fois qu'il pleurait ou qu'il émettait là, des protestations.
Mm. Puis est-ce que en grandissant aussi l'enfant, faut le laisser se planter? Comprenez-vous ma question du genre, on va se laisser s'enfarger dans les cailloux, on va le laisser tomber en bicycle parce que bon, ça fait partie de et on peut pas être toujours derrière lui pour éviter des blessures ou quoi que ce soit.
Ouais, il faut permettre, c'est sûr, l'exploration. C'est sûr que l'exploration balisée, là, naturellement, on s'entend. Je ne laisserais pas aller à 2 ans dans le milieu de la rue, c'est pas ça que je veux dire. Mais il faut permettre l'exploration balisée. Puis il y a même une tendance, là, à partir de constats, là, qui disent que peut-être, justement, il y a des environnements trop sécurisé, ça pourrait même créer peut-être un petit peu plus d'appréhension chez les enfants, voire un petit peu plus des tendances à s'inquiéter beaucoup. Donc, c'est parce qu'en fait, quand on réussit quelque chose qui est un petit peu plus légèrement plus risqué, là, on s'entend, bien, ça donne quand même un sentiment de confiance. Mm-hmm. Puis c'est important aussi de permettre à l'enfant de développer sa confiance. Donc, c'est sûr qu'on ne souhaite pas, par exemple, toujours le surveiller quand il est dans la piscine. Ce n'est pas de ça dont je veux parler, mais des fois, justement, lui laisser peut-être explorer la petite bicyclette, peut-être même si des fois on pense que c'est peut-être risqué d'enlever les petits trous aujourd'hui, mais de peut-être se dire, bien, lui, il a le goût que j'enlève les petits trous, bien, on va y aller pour ça, puis on verra bien. Donc, de pas aller à outrance dans la protection. Puis on leur transmet aussi un peu nos inquiétudes. Ouais. C'est sûr qu'il y a des choses de base qu'il faut leur interdire, là. Je parlais de la piscine tantôt. Il y a des choses qui sont dangereuses, vraiment, comme de laisser des produits toxiques autour de lui. Ça, c'est pas de ça dont je parle, mais des fois, dans les jeux, justement, la question était tout à fait pertinente. Puis on est en train de s'apercevoir de ça. Donc, il faut que l'enfant explore, puis que il n'y a pas toujours des succès la première fois que les petits trous sont enlevés.
Quels sont les mythes en tant que pédiatre que vous avez continuellement, que vous devez continuellement défaire lorsque vous êtes en consultation avec des parents et avec des enfants aussi, des fausses croyances là, qu'on a depuis toujours et qui sont justement fausses?
La première chose, c'est que les parents d'un très, très, très jeune bébé, des fois, les bébés vont pleurer dans la journée, puis ils ont besoin de pleurer. Fait que c'est pas... On peut pas enlever complètement les pleurs dans la vie d'un très, très jeune bébé. Il va pleurer parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'exprimer sa faim, besoin d'être changé, mais aussi, des fois, besoin d'être cajolé, mais des fois aussi... Il pleure parce que ça fait partie de son développement. Naturellement, on ne voudrait pas qu'il pleure plus de certain nombre d'heures par jour, mais de vouloir un bébé qui pleure jamais, ça je trouve que c'est peut-être ce que je vois, parce que bon, j'ai vu quand même, ça fait plusieurs années là, que je suis en pratique, fait que c'est peut-être ce que je vois maintenant que je ne voyais pas avant, là, certains parents qui veulent... pas du tout de pleurs. C'est d'ailleurs une raison de consultation, puis assez très fréquente. Puis des fois aussi que les parents, justement, pensent que tous les pleurs sont dus à des malaises digestifs. Mais non, des fois on pleure, c'est pas parce que le lait convient pas, c'est simplement parce que c'est notre seule façon pour un bébé d'exprimer notre fatigue ou autre.
Mais même adulte, on pleure parce qu'on est fatigué. Oui, je ne sais pas pour vous, mais moi, oui.
Oui. Oui. Puis des fois, ça fait du bien.
Oui, absolument.
Fait que c'est... En fait, ça, c'est une des choses qu'on voit, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Bien, vous l'avez dit tout à l'heure, là, un bébé, ça se gâte quand c'est tout petit. Non, je pense que ça ne se gâte pas, mais c'est sûr que s'il y a 15 mois puis qu'il pleure encore la nuit pour boire du lait, bien là, peut-être qu'ils ne mangent pas assez le jour, là, ça aussi. Il y a ça aussi, là, que quand ils sont rendus plus vieux, un autre mythe qu'on voit, c'est que les parents veulent pas du tout le faire pleurer la nuit, mais là, il est rendu à 2 ans, puis il prend encore son biberon la nuit. Bien ça peut être difficile aussi pour des parents à vivre avec un bébé qui se réveille encore la nuit. Puis donc, c'est de à un moment donné, savoir s'adapter... les besoins d'un enfant de 2 ans ne sont pas les mêmes qu'un nourrisson de,
de 3 mois au niveau du besoin de lait la nuit. Fait qu'il faut accompagner aussi les parents là-dedans. Puis les parents font jamais ça par mauvaise volonté. Des fois, c'est qu'on en parlait tantôt, là, comment la transmission de certaines savoirs des grands-mères ou des tantes qui peuvent nous accompagner là-dedans, parce qu'on pourra jamais avoir lu tous les livres pour se préparer. Mais puis ça, ben c'est aussi une aide là, que peut apporter les bulletins, que peuvent apporter les bulletins ou les petites vidéos qu'on a fait. Tu vois-tu d'autres mythes, toi, Raphaël?
Dans la pratique courante, moi, ce que je vois souvent, c'est beaucoup l'inquiétude des parents par rapport à la médication ou au vaccin. Mm. Pas nécessairement des mythes, mais des inquiétudes beaucoup qui ne devraient pas donner de médicaments à cause des effets secondaires pour leurs enfants. Ou les vaccins, encore une fois, parce que à cause des effets secondaires ou parce que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est des items sur lesquels on doit intervenir souvent, essayer de rassurer les parents par rapport à la sécurité, autant des médicaments que des vaccins.
OK. On va parler des bulletins pédiatriques. On est rendu là. Puis, ça va me ramener à votre cri du cœur, le message qu'en tant que pédiatre, vous voulez transmettre, donner des outils aux parents pour leur redonner le pouvoir. Les bulletins pédiatriques, ce sont des outils justement qui ont été conçus pour ça, et je veux en entendre plus. Là, on en a parlé d'entrée de jeu tout à l'heure du balado, mais qu'est-ce que c'est précisément les bulletins pédiatriques?
Les bulletins pédiatriques, c'était vraiment une aide justement plus théorique ou pour apporter des connaissances là, aux parents, leur permettre, en fait théorique, je veux dire information disponible rapidement, information crédible aussi, écrite par des pédiatres en collaboration avec des spécialistes de l'alimentation, notamment les nutritionnistes, les psychologues, les physiothérapeutes, d'autres professionnels très, très importants, travailleurs sociaux là, qui travaillent auprès, qui œuvrent auprès des enfants. Donc, de rassembler des informations adaptées au stade, parce que, bon, plusieurs questions seraient répondues là, dans les bulletins, puis par rapport justement à quel âge on peut, par exemple, envisager d'arrêter de donner du lait la nuit aux enfants. Bien, à chaque étape d'âge, on a essayé de, puis Dr Labbé l'avait fait, là, de trouver les âges où il y a des jalons importants là, ou des conduites à modifier là, au niveau des soins à offrir aux enfants. Donc, c'est vraiment des petits documents courts qui accompagnent les âges, comme par exemple, il y en a un pour l'âge d'un mois, après ça, un petit bébé qui a 4 mois, 6 mois, 9 mois, et puis ainsi de suite jusqu'à 5 ans, pour condenser des informations, pour faire en sorte que les parents peuvent se dire, j'ai lu ça, là. Tu parlais de pouvoir, moi, je parlerais de compétences aussi. Mais regarde, j'ai la base, là, ça va bien aller, puis je vais pouvoir écouter les autres aussi. C'est pas toujours mauvais, là, d'écouter les autres. Des fois, ils vont partager des choses, mais d'aller valider. Hein. Des fois, quand tu as 3-4 personnes autour de toi qui disent 4 affaires différentes, bien, ça permet de dire, OK, bien, voici, là, quelque chose qui a tenu la route à travers toutes ces années-là. Donc, c'est des avis d'experts, mais aussi appuyés sur la science pédiatrique. Hein. La pédiatrie, c'est quand même une vieille branche de la médecine. Elle existe depuis longtemps. Puis pour moi, ben c'est la plus belle, parce que dans le fond, c'est celle qui met déjà toutes les bons morceaux en place. Puis par morceaux, j'entends, ben c'est ça, de partir gagnant au niveau de l'alimentation, des habitudes de vie, également au niveau de des émotions, parce que aussi on peut aider beaucoup notre enfant à travers son développement, puis à bien gérer ses émotions, ben pas l'enfant de 3 mois, on s'entend, mais l'enfant plus vieux. Donc, ça regroupe ces informations-là. Ça a été conçu par Dr Labbé, c'était génial. Ça le fait le tour du Québec, et puis même d'une bonne partie de la francophonie. Et puis là, ben nous, on a pris la relève, parce que Dr Labbé, pendant des années, les a mise à jour. Alors, on a fait une mise à jour là, qui s'est terminée l'été dernier. Un petit peu, le processus ralenti par la COVID. Hein. La COVID a pris beaucoup de place. Mais bon, on n'a pas lâché. On a mis à ça des vidéos parce qu'il y a beaucoup de parents. Puis moi aussi, je fais partie de ces gens-là qui aiment des fois une image vaut mille mots. Hein. On est capable de voir, là, des, par exemple, il y a une vidéo qui est faite sur comment, justement, je fais pour l'alimentation, la transition là, du lait au solide. Les nutritionnistes ont fait un excellent petit vidéo là-dessus. Donc, c'est complémentaire et c'est vraiment... Je pense qu'il y a matière à discussion. Là. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça comme quelque chose qui est figé dans le temps. Il va falloir le renouveler. Et puis, on va le garder à jour. Puis je pense que c'est un outil précieux pour des parents. Et puis, voilà.
Un outil comme celui-là aussi, j'imagine qu'il faut toujours garder en tête que son enfant, tous les enfants, en fait, sont différents. Puis, ce n'est pas parce que mon enfant ne marche pas à tel âge qu'il y a nécessairement un problème. Exact. Rassurez-moi, là.
Exact. Merci. Oui, merci du commentaire. Merci du commentaire. C'est vraiment très apprécié. Là. J'aurais dû le dire, mais merci. Tu l'as dit. Effectivement, tous les enfants ne sont pas pareils. Puis il faut accepter ces différences-là. Et puis, c'est ça. On ne fait pas tous les mêmes jalons en même temps.
Non, exactement. Puis la plupart du temps, les outils sont très rassurants quand on les consulte. Là. Mais c'est sûr que parfois, bien, on a un enfant qui va finir avec un développement complètement normal, mais qui va faire une certaine portion plus lentement que les autres. Donc, quand on va consulter un outil, bien, on va avoir des craintes, mais ça veut pas dire que notre enfant est différent puis qu'il n'aura pas un développement normal tout de même. Donc, c'est important à ce moment-là de juste consulter notre médecin, notre professionnel de la santé pour avoir une évaluation plus complète.
Et en terminant, parce qu'on termine toujours les balados de cette façon-là, puisque le balado s'appelle « Santé sans rendez-vous », je vous pose la question, vous aurez à y répondre chacun votre tour. Avec qui prendriez-vous rendez-vous? Une personne, une personnalité, un artiste, tout horizon confondu, mort ou vivant?
Une seule personne.
Ou non. Deux. Ça peut être élargi. On ne sera pas trop strict là-dessus.
Dans mon cas, ce serait Barack Obama. Juste parce que je trouve que c'est un orateur exceptionnel. C'est un homme de rassemblement dans un air de division. Donc, je trouve que c'est ça. Que je serais super intéressé à l'écouter. Juste l'écouter parler longtemps.
Moi aussi.
Bien, moi, je dirais, bien, il y a deux, je diviserais ma réponse en deux. Bien, premièrement, bien, moi, je crois beaucoup à la transmission. Fait que j'aurais besoin de retourner, sans doute, avec ma mère, mes grands-parents, pour essayer d'avoir, en fait, la transmission de certaines choses que j'aurais aimées, notamment apprendre à mieux tricoter. Puis après ça, ben je dirais que je trouve qu'on est dans une période où on a besoin beaucoup d'espace vert. Je pense qu'on a eu à réfléchir là-dessus là, pendant la COVID. Fait que j'aimerais peut-être ça, moi, revoir, puis le voir un peu circuler là, dans nos villes. Celui qui a conçu Central Park, parce que j'admire beaucoup cet espace-là. Puis je pense que pendant la COVID, on aurait eu besoin d'espace, plus d'espace comme ça. Fait que je voudrais ramener ces bonhommes-là qui ont pensé ça. Puis notamment, c'est celui aussi qui a conçu le parc du Mont-Royal. Il a fait les deux. Fait que c'est ça, je sais pas. Il faudrait que je rencontre tout ce monde-là, finalement.
On vous le souhaite. Dans une autre vie, qui sait?
Oui, je le souhaite.
À noter que le lien pour accéder au bulletin pédiatrique du département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'Université Laval est disponible dans la description du balado. Il s'appelle Raphaël Morin-Gagnon. Il est résident en quatrième année en pédiatrie, papa de deux enfants en bas âge. Et Dr Joséanne Gagnon, pédiatre au centre hospitalier, professeur agrégé au département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'Université Laval, maman également de jeunes adultes.
Oui.
Merci beaucoup d'avoir participé au balado Santé sans rendez-vous.
Merci à vous.